Il est 6h20. Pfizer, BioNTech, Moderna et les autres fabricants de vaccins anti-Covid s'enrichissent au détriment des plus pauvres. Cette accusation vient d'Amnesty International. L'ONG leur reproche, chiffres à l'appui, de vendre leurs doses en priorité à un petit nombre de pays riches. Bonjour Cécile Coudrioux.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'Amnesty International en France. Alors c'est pas juste un coup de gueule, hein. Vous avez enquêté sur le sujet pour avoir une vision bien précise de la situation et vous publiez donc un rapport aujourd'hui. Si je résume les reproches que vous faites, les labos ont fourni essentiellement les pays riches à des tarifs élevés et ils n'ont pas partagé leur savoir-faire, c'est cela ?
Entre autres, donc ce n'est pas un hasard si ce rapport s'intitule « Une double dose d'inégalité », car en effet notre propos est de faire une analyse fine des pratiques et des politiques de ces 6 plus grandes entreprises pharmaceutiques. Vous en avez cité quelques-unes, donc AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfizer. Et nous avons comparé leurs pratiques et nous avons surtout comparé ça à l'aune du droit international et plus précisément des principes directeurs de l'ONU pour entreprises et droits humains. Et notre réponse, en effet, est sans appel. Donc, vous avez dit coup de gueule, on peut dire ça. Mais aussi, bien sûr, des recommandations pour enfin acheminer les vaccins de manière beaucoup plus équitable. Actuellement, il y a une inéquité absolument dramatique au sens propre du terme, puisque cela coûte des vies. Et pourquoi aujourd'hui ? C'est important de le dire aussi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes exactement à 100 jours de la fin de l'année. Et au-delà du coup de gueule, ce que nous voulons dire, c'est qu'il est tout à fait possible, d'ici la fin de l'année, de distribuer 2 milliards de doses à travers le monde, plus précisément dans les 82 pays qui ont les plus faibles revenus, faibles ou moyens inférieurs. C'est tout à fait possible si nous suivons nos recommandations.
On va les détailler, vos recommandations, oui. Mais juste pour qu'on se rende bien compte, est-ce que vous avez 2-3 chiffres à nous donner ? Je ne sais pas quelle est la proportion de vaccins de Pfizer qui a été distribué dans les pays pauvres et pareil pour les 2-3 gros labos.
Écoutez, c'est vraiment simple, parce que Pfizer, BioNTech et Moderna ont diffusé la quasi-intégralité de leurs vaccins dans les pays riches. Il reste vraiment des miettes pour les pays pauvres. Et globalement, c'est véritablement un scandale quand on sait qu'il n'y a que 1% qui va dans les pays les plus pauvres. C'est absolument inimaginable quand ces entreprises ont fait de tels profits. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ils fassent un effort à hauteur de 50% de leur production à partir d'aujourd'hui et bien sûr jusqu'à la fin de l'année pour arriver à ces 100 jours, mais également au-delà, de façon à être certain que ces 82 pays soient approvisionnés comme ils doivent l'être, car cela pourra sauver des centaines de milliers de vies.
Donc ça veut dire que le dispositif COVAX, qui est censé faciliter l'accès aux vaccins des pays pauvres, ça marche pas ?
Alors c'est pas COVAX qui ne marche pas, enfin disons plus précisément, ce sont ces entreprises qui n'ont pas joué le jeu. Et c'est pourquoi, à l'exception d'ailleurs de AstraZeneca, qui a davantage produit pour ces pays en difficulté, les autres ont vraiment pas du tout joué le jeu. Et l'autre aspect extrêmement important, évidemment, et là malheureusement les 6 entreprises sont au même niveau de médiocrité, dans la décision de ne pas partager leurs connaissances, de ne pas partager leurs technologies, même lorsque des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, qui étaient parfaitement en capacité de les produire, ont demandé que soit levé ce brevet, eh bien, elles ont non seulement refusé, mais également, je trouve ça encore plus cynique, de manière active, fait du lobbying intense auprès de leur gouvernement et auprès de l'OMC pour que ces accords de propriété restent absolument intouchables. Alors que dans le cas du droit, c'est vraiment une question de vie ou de mort au sens propre, nous trouvons cela particulièrement inadmissible.
Mais les labos vous diront qu'ils ont investi beaucoup d'argent pour réussir à trouver un vaccin en si peu de temps et que ce ne sont pas des entreprises philanthropiques.
Vous avez raison, c'est l'argument classique de l'innovation, cela fait des décennies que cela dure, cet argument n'est pas recevable dans la mesure où des millions et des millions de dollars ont été versés, des fonds publics pour aider à cette innovation. Il y a eu également des précommandes des gouvernements. Nous savons que le chiffre d'affaires de ces entreprises peut atteindre jusqu'à 130 milliards de dollars, donc le couplet sur la difficulté, le fait de risquer de leur casser les reins n'est pas exactement crédible. Nous pensons que ces entreprises ont fait énormément de profits et bien sûr, en soi, ça n'est pas un problème. Mais nous voulons rappeler à travers ce rapport et notre campagne qui s'annonce, qui s'appelle justement « Compte à rebours 100 jours » avec une pétition à l'appui pour faire pression sur ces entreprises, mais aussi sur les États qui ont été bien trop faibles pour régler un petit peu, réguler cette question, parce que nous pensons que les entreprises ont fait que trop peu pour pouvoir être en conformité, si vous voulez, avec ces principes directeurs de l'ONU et de l'OCDE.
Et c'est justement ça que je trouve vraiment très intéressant dans votre rapport. Mm-hmm. Hein, vous dites que les entreprises, normalement, ont l'obligation de respecter les droits humains. Et vous, Amnesty, en plus, vous êtes allé voir dans la politique interne de chacun de ces labos, voir si c'était écrit noir sur blanc. Et c'est le cas, par exemple, je ne sais pas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, il y a écrit dans leur charte interne qu'ils doivent respecter, ils s'engagent à respecter les droits humains.
Alors, ils ont en effet des engagements parfois publics extrêmement clairs donc il y a un écart, si vous voulez, assez effarant aussi entre les discours et la réalité, parce que nous avons analysé aussi leur communiqué de presse, mais nous avons analysé avant tout leur politique en droits humains, qui n'est pas du tout à la hauteur par rapport à l'urgence de la situation. Nous avons analysé aussi leurs pratiques tarifaires, tout à fait inéquitables, qui manquent de transparence, de surcroît. Donc les pays qui veulent commander des doses ne savent pas quel tarif a été proposé à d'autres, ce qui leur enlève totalement des effets de levier. C'est pourquoi nous pensons que les États aussi devraient suivre nos recommandations. Nous avons une double cible, si vous voulez, les entreprises, mais aussi les États, parce qu'il est important de mettre une pression sur ces entreprises pour qu'elles fassent preuve de davantage de transparence, mais aussi et surtout, je le répète, la question des brevets est absolument majeure. Et enfin, pourquoi les États aussi? Parce qu'actuellement, il y a 500 millions de doses de surplus dans ces pays riches qui n'ont absolument pas honte de se rendre compte qu'en fait, il y a une inéquité telle que si ces 500 millions de doses étaient versées dans ce pot commun à travers COVAX, on irait déjà vers ces 2 milliards que nous demandons. Ce serait déjà un premier geste. Et ensuite, c'est la production qui devrait se poursuivre avec un taux différent pour ces pays, des 82 pays qui sont en grande difficulté actuellement.
Merci Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International en France. Vous étiez l'invitée du 5-7.